ensemble qu'elle a créé. Ce soir, la musique adoucit par avance les mœurs.
Ah, check this out.
Encore heureux. Du lundi au jeudi sur France Inter, à partir de 17h.
France Inter.
La voix est libre.
Et c'est l'heure de Daniel Mermet pour la basse, j'y suis, et bip.
Jean-Luc, chauffeur routier en colère. Alors par rapport à ce qui se passe en Bretagne, là, et puis la fermeture des abattoirs en Gade, donc 850 personnes sur le carreau. Moi j'habite un village de 1000 habitants, alors je m'imagine que si tout le village demain était au chômage, voilà, tu imagines un peu ce que ça fait, quoi. Hein. Après de chez nous, à Sarreguemines, on a le même cas, on a un petit abattoir, bon c'est pas 850 personnes, mais c'est pareil. C'est un abattoir qui a été déjà repris à l'époque par un Hollandais. On va dire un peu véreux, un peu douteux, et ben ça y est, mettre la clé sous la porte aussi, et les gens vont se retrouver à la rue. Par contre, merci les Bretons, merci de se bouger contre l'écotaxe pour lourd qui va entrer en vigueur le 1er janvier. Alors moi, je comprends pas nos patrons qui se manifestent pas plus, tu me diras, c'est peut-être un peu tard, les portiques sont installés et tout, mais franchement, on va crever. Il y a les boîtes de transport françaises qui vont encore mettre la clé sous la porte. Et il faut quand même savoir que ces salopards des pays de l'Est, pendant 24 mois, ils vont être exonérés de payer cette écotaxe. Hein. Alors nous, bien sûr, on va nous dire, ouais, vous avez qu'à répercuter ça sur le prix du transport, ouais, tu parles. Hein. La variable d'ajustement, on la connaît, ça va en quoi être le salaire des chauffeurs. Alors je comprends pas qu'on se bouge pas plus contre c'est ça, et je comprends pas que ces salopards des pays de l'Est, une fois de plus, ils vont encore rouler gratuitement sur nos routes. Hein. Voilà. C'est une aberration, cette écotaxe. C'est une honte. Allez, salut.
Je suis en train d'écouter l'émission là aujourd'hui là à Dubaï là avec la dame là qui nous dit le golf, le clubhouse, le plus beau du monde et tout, l'aura, le respect, le truc, le machin, je dis, bah voilà là, elle est là la solution. Et les mecs là en Bretagne, là, qui pleurent parce qu'ils n'ont pas de boulot. Il faut qu'ils aillent à Dubaï. C'est merveilleux, tout va pour le mieux, pour le meilleur du monde. Tout le monde est heureux, elle a dit la dame, tout le monde est heureux. Ben voilà, il faut y aller. Allez à Dubaï, les gars. Vous plaignez pas du chômage. Vous inscrivez pas Pôle emploi. Allez à Dubaï. Réfléchissez à la proposition, vous verrez. Dubaï, super.
Ouais, je viens d'écouter l'émission sur Dubaï. Et j'ai fait un rêve. Le rêve que tous les travailleurs de Dubaï, là, c'est tous ces esclaves, avaient les moyens de partir, de rentrer chez eux, de se tirer. Tous, mais tous, qu'il n'en reste pas un, plus un. Eh bien, Dubaï, est-ce que ça serait toujours le paradis que décrit cette charmante directrice de golf, là, qu'on a écoutée, qui m'a vraiment foutu les nerfs terribles. Et franchement, Daniel, dis-moi... T'as pas eu envie de la baffer, cette bip bip. Au revoir.
Moi, je me demande si une petite fessée, ça aiderait pas à avoir la chose du bon côté. Fessée Charline, fessée coquine.
On reproche aux gens de ne plus s'intéresser ou de ne plus croire à la politique. Mais la plupart des femmes et des hommes politiques n'y croient pas eux-mêmes. C'est-à-dire, ils ne croient pas à la politique comme moyen d'agir sur le monde, pour l'orienter vers un peu plus de justice. Non, ce qui les intéresse, c'est simplement... c'est un moyen de réussir dans la vie. Il y a ceux qui essaient le showbiz, il y a ceux qui essaient les grandes écoles, les grandes entreprises, et puis il y en a d'autres, c'est la politique. Ils vont rien faire qui va changer quoi que ce soit, quoi. Alors c'est vrai que quand les politiciennes et les politiciens n'y croient pas eux-mêmes, c'est difficile à la population. Finalement, je préfère dire à la population que les citoyens, elles y croient eux-mêmes. Parce que toute la population n'habite pas en ville. Citoyen, ça veut dire de la cité, quoi.
Merci pour tous ces messages, chers MG, messages qui me parviennent d'ici à Varsovie. Entrer à Varsovie, venir en Pologne, c'est d'abord passer par la case mémoire. La case mémoire noire. Là, on sort du musée de l'insurrection de 1944. Musée de l'insurrection de 1944, c'est un grand musée, assez récent, le premier musée d'histoire par la narration. Ils sont très fiers de ça, on a rencontré le directeur de ce musée, et c'est vrai que c'est un musée intéressant, passionnant, tout en bruit, en fureur, en couleur, émotion. On se demande si, en sortant, on a compris grand-chose. Et surtout, on se dit que si on consacrait, si on avait consacré au cours de l'histoire, de la longue histoire de l'humanité, des musées de cette ampleur et de cette surface à tous les faits historiques, batailles, catastrophes de toutes sortes, eh bien, il n'y aurait plus beaucoup de place sur cette planète pour le présent. Et c'est le présent qui va nous intéresser aujourd'hui. Et même le futur. Il fut un temps où, au lieu de se tourner vers le passé, remâcher sans cesse le passé comme nous le faisons aujourd'hui, eh bien, on se tournait vers le futur. Et aujourd'hui, on va dire, rendez-nous l'avenir. Vous savez ce que disait Pierre Dac ? Pierre Dac disait, le futur, c'est jamais que du passé en préparation. Au 22e moitié du 20e siècle, très souvent, on s'est dit, à quoi va ressembler l'an 2000 ? Et on faisait des projections, c'était le style en 2000, il y aura des fusées en l'an 2000, on fera ci, on fera ça, on mangera comme ci, comme ça en l'an 2000. Et bien, on va revenir là-dessus, sur l'an 2000 tel qu'on l'imaginait. On a projeté sur cet an 2000, on a imaginé, histoire de dire que ce serait peut-être intéressant de recommencer. Comment sera 2050, comment sera 2020 ? Un petit jeu de miroir du passé au futur. Voilà notre sujet aujourd'hui dans la base si j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, bonjour l'équipe, bonjour les AMG. Comme chaque troisième jeudi du mois, le repère du Conflans se tiendra au bar du Canigou, chez Joël Le Pompier, à Villefranche-de-Conflans, dans les Pyrénées-Orientales, à 19h30. On parlera encore et toujours de la charte à faire signer aux candidates et candidats, futurs élus, pour certains, des municipales de 2014. Le repère de Perpignan nous a envoyé l'état actuel de ses cogitations et ma foi, vu la concision, la clarté et l'essentiel exprimé, pourquoi ne pas l'adopter dans sa totalité ? Pour plus de précisions, vous pouvez consulter le blog en tapant « Le mur parle » en un seul mot chez blogspot.fr.
Dans la série « Oh oui, fous-toi de ma gueule, j'aime tellement ça », Marisol Touraine reçue sur France Info à propos des retraites, de la nouvelle réforme, enfin de la nouvelle méforme des retraites, le journaliste lui fait remarquer qu'il est prévu que quelqu'un qui a commencé à travailler à l'âge de 23 ans, et ce après 1972, se verra obligé de travailler jusqu'à l'âge de 66 ans. Et là, la chère Marisol lui répond « Ah oui, mais il y a des exceptions, par exemple, si la personne a effectué un travail pénible, le temps de travail sera raccourci. » Sauf que 23 ans, c'est 5 ans après 18 ans. 18 ans, c'est l'âge du bac. 5 ans, c'est la durée de 80% des cycles d'études supérieures, pour ne pas dire 90%. Donc, les gens qui commencent à travailler à 23 ans pile, en général, le plus souvent, sont des gens qui n'exerceront jamais une profession pénible et qui donc se taperont bien leur retraite à 66 ans. Enfin, provisoirement, parce que d'ici là, il y a le temps qu'on fasse une deuxième contre-réforme, une troisième contre-réforme et qu'on passe à 70, 75, pourquoi pas 80, hein ?
Bonjour à tous, j'ai un message pour les AMG de la région de Nancy. Le collectif nancéen pour une régie publique des transports en commun et pour leur accès gratuit vous invite à une conférence débat sur le thème « Liberté, égalité, gratuité, une expérience sociale à Aubagne ». Ce vendredi 18 octobre à 20h30, à l'IRTS de Nancy, 201 avenue Raymond Pinchard, quartier du Haut-du-Lièvre, à Nancy. Et pour ceux qui voudront approfondir la question de façon plus concrète et en lien avec la situation locale de Nancy, une réunion de travail ouverte à tous aura lieu le lendemain samedi 19 octobre de 9h à 12h à la Maison du Peuple, 2 rue Drouin à Nancy. Bienvenue à tous.
Allons vers l'an 2000.
Dans l'an 2000.
Plus besoin d'acheter un journal, on se branchera sur l'émission d'information, ou sur l'éditorial politique, ou sur la chronique de mode.
En l'an 2000.
On fera des postes récepteurs de télévision bijoux, des postes de poche, grands comme une lampe électrique. Et la rue présentera un singulier spectacle.
Actualité française, 1947.
Naturellement, dans le métro, on lira le poste du voisin par-dessus son épaule. Et il y aura des faits divers tellement passionnants que... Et je ne parle pas du feuilleton.
Il était devant elle, elle était devant lui. Ils étaient l'un devant l'autre.
La télévision sera pour tous un besoin plus impérieux encore qu'aujourd'hui le cinéma ou la radio. Toutes les voitures seront munies d'un poste récepteur. Espérons qu'il n'y aura pas souvent de mauvaises nouvelles susceptibles d'affoler les conducteurs impressionnables.
Aujourd'hui, dimanche de Pâques, jour sanglant pour les automobilistes.
Personne n'y échappera. Et les ministres de demain, au lieu d'être choisis comme ceux d'aujourd'hui pour leur valeur, leur intelligence, leur dévouement à la cause publique, seront choisis pour la séduction de leur sourire et le velouté de leurs yeux.
Le pays, je le dis comme je le pense, mes chers concitoyens, a droit à la vérité. Nous sommes à un tournant de notre histoire. L'époque est cruciale et toutes ces questions doivent être reconsidérées.
Et vous vous assoupirez en songeant aux temps heureux où la télévision sera en relief. Car vous avez soif de progrès.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Vanctil. 2000, si j'y suis.
Flight number 2, arriving from New York.
Tribune de Paris. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Une émission d'Émile Dana et Raymond Thévenin. Comment vivrons-nous en l'an 2000 ? C'est ce que nous demandons ce soir à quatre observateurs de la vie future. Raymond Thévenin va mener le débat.
Avant que nous ne commencions cette discussion, M. de Latil nous disait à peu près ceci. En 50 ans, le mécanisme, si l'on veut, de la civilisation moderne a fait des progrès considérables. Est-ce que dans les années qui viennent, nous allons avoir des inventions pratiques aussi importante que celle du téléphone, que celle de la télévision, que celle de la radio, etc. Voilà, si vous voulez, le sujet que nous pourrions prendre comme thème de discussion ce soir. Pierre de Latil.
Je suis pleinement de cet avis. Il n'est aucun doute que si nous avions tenu une réunion semblable à celle-ci en 1900, nous aurions eu à promettre aux hommes le téléphone, la téléphonie sans fil, la télévision, et le cinéma et encore beaucoup d'autres choses, ne serait-ce que la machine à laver aussi. Et devant nous, nous n'avons certainement pas, à mon avis, autant de merveilles à promettre. Car à mesure que l'on en réalise, autant il y en a moins à réaliser.
Parler de l'avenir n'est pas de la tarte. Dans la crainte que vous n'ayez pas tout à fait saisi la pensée du professeur de Latil, éminent cybernéticien qui nous parle ici en 1955 sur la radio nationale, nous vous repassons sa réponse. Je vous demande d'écouter très soigneusement.
Je suis pleinement de cet avis. Il n'est aucun doute que si nous avions tenu une réunion semblable à celle-ci en 1900, nous aurions eu à promettre aux hommes le téléphone, la téléphonie sans fil, la télévision, et le cinéma et encore beaucoup d'autres choses, ne serait-ce que la machine à laver aussi. Et devant nous, nous n'avons certainement pas, à mon avis, autant de merveilles à promettre. Car à mesure que l'on en réalise, autant il y en a moins à réaliser.
L'an 2000, tel qu'on l'a imaginé, tel qu'on en a parlé, tel qu'on l'a prophétisé, depuis 50 ans, ici même, à la radio. Guy Vanctil a traîné dans les archives de l'INA pour essayer de voir comment on a vu le futur, voir un peu ce qu'on pourrait appeler déjà le passé de l'an 2000. C'est une balade à la recherche du futur perdu. On a dit un jour « rendez-nous le futur ». Il y a un moment où l'an 2000 était absolument magnifique, il était très beau. Ça, c'était il y a très longtemps. C'était un monde merveilleux, plein de robots, de fusées. La mer aurait un goût de limonade, disait Fourier. C'était le progrès, c'était la modernité. Et tout ça provenait du 19e siècle industriel. Cette formidable aventure, faut-il citer Wells ou Jules Verne ? La guerre de 14, avatar, peut-on dire, de cette révolution industrielle, n'a pas entièrement calmé les ardeurs dans cette foi du progrès. Souvenez-vous, par exemple, du succès de la fée électricité à l'exposition de 1937. À quel moment avons-nous cessé de croire au futur ? L'apogée est-elle bien située en 1969 lorsque l'homme marche sur la Lune ? En tout cas, dans les années 70, choc pétrolier, fin des 30 glorieuses, les punks braillent « No future », le progrès n'a plus la cote. L'Union soviétique bat de l'aile, il faut vraiment beaucoup, de plus en plus d'aveuglement pour y croire, et petit à petit, le futur, l'avenir, le progrès vont se retourner pour faire place à une angoisse, une inquiétude grandissante dans les esprits et dans les mots et dans les émissions de Radio France. C'est uniquement dans ces émissions qu'on va se balader aujourd'hui de 1949 à ces dernières années. Comment la vision du futur a changé, a basculé. Des prophéties parfois judicieuses, souvent à côté de la plaque, parfois rigolotes de stupidité, mais ça, on sait que lorsqu'on s'aventure à prévoir, eh bien, c'est les risques qu'on encourt. Mais on part dans cette balade avec la pensée de Saint Augustin aujourd'hui. Saint Augustin disait, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que le présent. Il y a le présent du présent. Il y a le présent du passé et le présent du futur. C'est une très haute pensée. Une pensée qui va s'illustrer aujourd'hui. Parce que dans chaque moment où l'on parle du futur, on parle du présent. Vous allez voir comment on peut établir des liens entre les prévisions et chaque moment, chaque événement de ces années passées sur nos antennes.
Allons vers l'an 2000 avant que l'an 2000 ne vienne à nous.
Mais voici l'an 2000 et j'en peux plus marcher. Je ne souhaite pas cette guerre civile terrible qui un jour nous arriva.
Oh l'an 2000, l'an 2000, l'an 2000.
Rappelez-moi l'an 2000. L'an 2000. L'an
1955.
Maintenant, dire que même dans, d'une façon générale, comme le dit très monsieur de Latil, on ne peut pas prévoir le téléphone, on ne peut pas prévoir d'autres choses que le téléphone, on ne peut pas prévoir d'autres choses que ceci ou que cela. Évidemment, si l'on borne le jugement à ce qu'a prévu, mettons, Jules Verne, on peut dire qu'évidemment, on ne va pas trouver tel ou tel truc. Mais il est très vraisemblablement qu'on trouvera dans l'énergie atomique des moteurs de plus en plus petits, qu'on arrivera à réduire l'inégalité technique entre les nations en faisant des piles breeders. Il est très vraisemblablement que dans les petits dispositifs, on arrivera à faire des postes de TSF extrêmement petits, et que toutes les inventions qui se rapportent au fond à l'utilisation de nos cinq sens seront de plus en plus élégantes, de plus en plus perfectionnées, de plus en plus prodigieuses. Qu'il y aura des machines à calculer qui seront évidemment extraordinaires et qui font sourire nos petits-enfants quand ils considéreront les machines ENIAC et autres aujourd'hui, celles qui sont actuellement nos prodiges.
Et la machine ENIAC, j'avais jamais entendu ce mot-là, eh bien c'était l'ancêtre des ordinateurs aujourd'hui, comme quoi, on voyait bien que c'est par là que ça allait se passer. 1967, générique tout gaulien, tout pompeux, voix de speaker et de speakerine statutaire.
1967.
Enquête et commentaire. Une revue de l'actualité politique et économique dirigée par Pierre Sandal.
L'an 1000, on le sait, fut à ce point redouté par ceux qui l'appréhendaient qu'un vent de panique provoqua mort et désastre annonciateur de l'apocalypse. Nous avons appris qu'un savant américain, le professeur Herman Kahn, de l'Institut de Hudson, était venu apporter la bonne parole sur l'an 2000 aux membres du club Jean Moulin, qui compte nombre de technocrates et experts. Après 6 années d'études et de recherches sur ordinateur, avec, dit-on, 95% d'idées simples et 5% d'idées complexes, il est arrivé à ce qu'il faut bien appeler le triomphe de la prospective. Sur les 6 milliards d'habitants de la Terre, 10% auront atteint le stade post-industriel, caractérisé par un revenu 50 fois supérieur à ce qu'il était dans les sociétés pré-industrielles. Nous avons la satisfaction particulière de constater que les Français seront dans cette présélection. 30% parviendront au stade post-industriel précoce, tandis que 50% auront accès à la consommation de masse que connaissent actuellement les pays les plus avancés. Le reste se situera entre les pays industrialisés et les pays en voie d'industrialisation. Faut-il le dire, l'arsenal technique sera des plus impressionnants, robots remplaçant les membres déficients, appareillage électronique correspondant avec le cerveau humain. Ce que l'homme ne voudra pas faire, très souvent l'ordinateur s'en chargera, même les conférences par exemple. Laser et maser permettront de se chauffer, de souder, de communiquer, que sais-je encore. Citons encore le cinéma et la télé à 3 dimensions, les sources nouvelles d'énergie, comme les champs magnétiques, la régulation des climats, l'exploitation des océans, etc. Voilà qui nous change du tableau noirâtre et apocalyptique qui hante certains esprits.
C'était l'éditorial de Pierre Sandal.
Voilà, la réponse était dans les cigares, les tronches des ordinateurs. Mais vous le voyez, l'avenir était absolument radieux. C'est à celui qui aurait le plus bel avenir devant soi. Voilà ce qu'on disait le 26 décembre 1967 lors d'une émission fameuse à l'époque qui s'appelait Interactualité. Interactualité. Beaucoup de ces émissions sur l'an 2000, de prospectives, de prévisions, de plans sur la comète et de regards forcenés dans les boules de cristal, avaient lieu, tout ça sous un dehors scientifique, avec le spécialiste, grave, guindé, péremptoire. Tout ça avait très souvent lieu en fin d'année, comme on passe l'année. Bon, ben on dit, tiens, on va aller plus loin, on va voir comment ça va se passer en 2000.
1967.
Venons-en maintenant à la page magazine d'Interactualité. C'est donc la guérison du cancer et la disparition de la guerre qui préoccupent le plus les Français. Le sondage d'opinion publique de l'IFOP vient confirmer notre propre sondage réalisé par les journalistes de France Inter et les journalistes de province. Pour nos auditeurs, la guerre du Moyen-Orient et la guerre du Vietnam sont considérés comme les problèmes majeurs de l'année. La préfiguration de l'an 2000, eh bien les Français sont raisonnables et optimistes. L'enquête révèle, par exemple, que la vie sera beaucoup plus agréable, qu'un voyage dans l'espace ne sera pas dangereux, que l'eau de mer sera utilisée couramment, que l'on pourra se déplacer par fusée individuelle. Mais bon vivant, le Français estime aussi que l'on boira plus de bon vin, que l'on absorbera de médicaments. Il est à remarquer aussi que les Français ont une espérance en ce qui concerne la longévité. Ils envisagent volontiers qu'en l'an 2000, la moyenne d'âge sera de l'ordre de 100 ans. C'est un souhait, mais c'est un souhait qui peut être réalisé, car les experts, les savants, pensent que d'ici l'an 2000, on aura réussi à allonger la moyenne de vie de l'ordre de 50 ans. Cet optimisme dans la science, cet optimisme dans le progrès, est également d'ailleurs un des enseignements de ces sondages. Ce n'est plus le progrès qui fait peur, le progrès qui intimide, mais c'est en somme le progrès de l'espoir.
Voyez-vous, monsieur, vous faites une chose très dangereuse. La prophétie est toujours difficile.
Demain sera notre jour.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, la chance tournera.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, la vie nous sourira.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, on nous dira demain.
Quand c'est qu'arrivera demain.
Demain sera toujours demain.
Oh, qu'ils sont nombreux demain.
Demain, c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain, en demain s'éternise. Demain des courages aujourd'hui.
Demain c'est la terre promise.
L'a dit.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, ceci, demain, cela.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, 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 j'entends que ça.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, nous disons tous, demain.
Quand c'est qu'arrivera demain.
Demain sera toujours demain.
Oh, qu'ils sont nombreux les demains.
Demain, 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 demain.
Demain, demain, toujours demain.
Alors maintenant, je dois passer la parole, c'est logique, au professeur Henri Péquignot, professeur à la faculté de médecine de Paris.
Je vous dirais qu'il y a quelque chose qui, alors moi, m'étonnerait de façon extraordinaire si c'était réalisé. C'est si, à ce moment-là, l'humanité de l'an 2000 était arrivée à faire bénéficier la population de la planète, quelle qu'elle soit, des découvertes scientifiques, non pas de l'an 2000, mais des découvertes scientifiques qui ont été faites il y a 10 ans, il y a 20 ans. Je ne parle pas de celles d'aujourd'hui.
Ce même 27 décembre 1968, là, on écoutait Inter sans frontières. Voici une autre émission qui s'appelait Interactualité, qui était présentée par Yves Mourouzi. Et là, on voit que les choses commencent à basculer. Le futur n'est plus aussi gai, n'est plus aussi souriant qu'il l'était jusque-là.
1968.
Voilà donc pour les principales informations de la matinée. Jean Maz, vous êtes dans notre studio avec un invité qui est exactement un sociologue, Paul Vieille. Paul Vieille, vous venez de publier dans la revue 2000, Avenir, Aménagement du territoire, les résultats d'une enquête que vous avez menée auprès de lycéens de 10 à 18 ans. Et la question que vous leur avez posée, comment sera la société française dans une trentaine d'années en l'an 2000?
Et alors, ça commence à être une véritable panique, si je puis dire, enfin une angoisse sur l'avenir. Je me souviens, une des premières réunions que j'ai eues, une des premières interviews que j'ai eues avec des enfants, qui n'étaient d'ailleurs pas très âgés, c'était des enfants d'ouvriers en général, 15 ans, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce que sera l'an 2000? C'est le béton, disparition de la nature, et c'est le chômage. Le chômage parce que l'automation aura supprimé le travail.
Deux formules me semblent en définitive, et pour terminer, résumer assez bien l'esprit de tous ces jeunes que vous avez interrogés. L'an 2000, s'il existe jamais pour l'humanité, n'est qu'une année dont le millésime se termine par 3-0 et n'a pas d'autre intérêt. Et maintenant, nous allons rejoindre Robert Pouillet à la Bourse de Paris.
Eh bien, il existe encore un très bon courant d'affaires. Un très bon courant d'affaires anime en effet la bourse en cette fin de semaine, mais l'irrégularité est de nouveau la tendance.
Ah oui, on parlait déjà de la bourse, mais le CAC 40 était juste dans un coin du petit écran à cette époque-là. La politique, avait-on dit, ne se faisait pas à la corbeille. On en faisait encore de la politique et elle transparaît dans ces émissions que nous suivons. On sourit évidemment face aux bévues des uns et des autres, mais après tout, rien de plus valeureux que de savoir où nous allons. Nous voulons savoir d'où nous venons, qui nous sommes et où nous allons. Et parmi ceux qui se sont plantés, il y en a de très fameux. Un certain Albert Einstein, par exemple, avait dit en 1932, avec une belle assurance, « Il n'y a pas la moindre indication que l'on puisse obtenir un jour de l'énergie nucléaire. »
1968.
Allô, allô, moi je voulais savoir si dans le monde il y a encore la misère, la faim, les vieillards qui manquent de tout, et les hôpitaux qui ne soignent pas les malades comme ils doivent être.
Alors ça oui, c'est une question fondamentale, évidemment, c'est tout le problème de l'organisation et de la répartition des richesses qui sont créées par la science et par la technique.
Oui.
Pierre Pathé, dans les sociétés très avancées par la force des choses, il n'y aura plus de pauvres. L'Amérique qui n'a jamais eu aucun sens social, précisément par maintenant qu'elle est vraiment de plus en plus riche, eh bien, elle le fait. Elle prend les Noirs, qui étaient la partie rejetée de la chose, et leur donne les moyens de vivre. Il reste encore un fond de pauvres en Amérique, mais on s'aperçoit que c'est en train de diminuer d'année en année, n'est-ce pas? Parce que le pays a les moyens de le faire. Le jour où un pays a les moyens de le faire, inévitablement quand même, il le fera. Alors en Europe, où il y a toujours eu un esprit social beaucoup plus développé, il est certain que l'an 2000, s'il n'y a pas une catastrophe, il n'y aura plus de personne dans le besoin, ça n'existera plus.
Et puis, si vous me permettez de donner une opinion personnelle, c'est aussi tout le problème de l'information. Je crois que les sources d'information se multiplieront de plus en plus, qu'il sera de plus en plus difficile de faire, permettez-moi l'expression, du bourrage de crâne, et que les hommes auront les éléments pour juger.
Il sera aussi de plus en plus facile de faire du bourrage de crâne.
Croyez-vous, les sources d'informations se multipliant et...
Mais qui aura le monopole des sources d'informations en l'an 2000?
René Marchand?
Oui.
Oui, je crois qu'il faut ajouter quand même sur le problème de la liberté individuelle, c'est que de moins en moins, les gens ne travailleront. Et il y aura de plus en plus de loisirs, ça vous l'avez dit tout à l'heure. Mais par exemple, les Américains ont calculé que d'ici l'an 2000, il y aura 3 mois de vacances et qu'un membre seulement de la famille travaillera quand il aura besoin d'argent. Ce qui veut dire que, bien sûr, il y aura de plus en plus de voyages. Donc ça, c'est un côté quand même agréable de l'an 2000. Et par exemple, l'aller-retour Paris-New York coûtera moins de $100, c'est-à-dire moins de 50 000 francs anciens, moins de 500 francs.
Et il aura donc beaucoup de temps pour écouter, je reviens au problème de l'information, les informations qui lui seront données aussi bien par Moscou que par New York que par Pékin, et il pourra sans doute se faire une opinion. Non, le professeur Péquignot n'est pas d'accord.
Alors c'était il y a 30 ans, en 1968, Claude Villers était correspondant de France Inter à New York, et voilà, donc 3 mois de vacances, et puis l'équivalent de 500 à 600 francs pour aller jusqu'à New York, c'est quand même un peu plus cher que ça. Quant aux 3 mois de vacances, nos amis américains, les États-Uniens, sont encore très loin. Au sujet de l'information, les craintes qu'exprime l'un des invités sur l'information est assez fondée. En revanche, à l'époque, jeunes gens, il y avait un ministère de l'information qui avait pour charge de contrôler ce qui se disait dans le poste, que ce soit le transistor ou que ce soit la télé, et c'était un contrôle sérieux. Alors, bien sûr que tout le monde souhaitait que l'information se multiplie, arrive par de multiples canaux sous un tas de formes, que ce soit la diversité de l'information. Aujourd'hui, on est arrivé peut-être à ce sombre pronostic, à savoir que l'autre forme de la censure est en cours de réalisation, à savoir que trop d'infos tue l'info et que nous vivons la tyrannie de la communication.
1969.
Que sera la France en l'an 2000? Comment, à cette époque, les Français vivront-ils? Cette double question a été posée au cours d'un colloque réunissant de nombreux spécialistes, économistes, médecins, architectes, sociologues, syndicalistes agricoles, techniciens de toutes disciplines. Ils ont envisagé des perspectives encourageantes, mais ils ont été également d'accord pour reconnaître que notre société secrétait de terribles menaces.
Ces problèmes, comment peut-on les appréhender?
En réfléchissant aux tendances à présent visibles, dont il est à peu près certain qu'elles iront se prononçant, et en regardant les conséquences que comportent ces tendances.
Pouvez-vous donner des exemples?
Un exemple extrêmement simple, c'est à l'heure actuelle la pollution des mers et notamment des plages. La Méditerranée devient un cloaque. Au large de la côte de Californie, on voit partout des puits de pétrole dans la mer, n'est-ce pas, les dériques, et on voit des flaques de pétrole se répandre sur la mer.
C'est-à-dire que l'on risque, en l'an 2000, de ne plus pouvoir prendre de bains de mer.
On peut à peu près exclure les bains de mer pour l'an 2000, du train dont nous allons.
Je veux pas vieillir, les yeux collés, les lèvres séchées, la peau morte, avec du goût, de rond plein les pieds sous l'œil amusé d'un cloporte. J'ai trouvé du mercure l'amidale s'agglutine au charbon. Y'a du moisi sur mes égratignures, tu défoliant dans l'opinion. Je veux pas vieillir entre un mammouth, la voie ferrée et la décharge. Derrière une breue, telle d'autoroute au pied du mur de Berlin-Plage.
Il est certain que la production d'énergie électrique d'origine nucléaire va poser un problème nouveau et redoutable, car les déchets radioactifs sont mortels par leur radiation. Voilà. Aussi bien, on s'en est préoccupé dès à présent, alors que l'exploitation industrielle de l'énergie atomique n'est pas vraiment commencée. Et les dispositions qui sont prises, et qui le seront systématiquement dans l'avenir, permettent de n'entretenir aucune inquiétude à ce sujet. En particulier, on retraite les combustibles nucléaires irradiés, on sépare les éléments qui ne sont plus utiles, on les enferme dans des containers de ciment que l'on immerge à grande profondeur, et si le procédé ne paraît pas suffisamment sûr dans l'avenir, on envisage même de les satelliser, voire de les envoyer dans l'espace sur des trajectoires ne permettant pas le retour sur la Terre. Donc, de ce côté-là, je crois qu'il n'y a pas à craindre de pollution supplémentaire.
Voilà, soyez sans inquiétude, Françaises, Français, Jacques Legros de la Direction Générale de l'EDF nous rassurait en ce 27 décembre 1968 et envisageait, présageait, et alors lui l'anticipait sur ce qui allait se passer quelques années plus tard lorsque le nuage radioactif de Tchernobyl allait arriver jusqu'à la frontière française, se dire « Ah, mais non, c'est la France, je ne vais pas entrer en France » et contourner notre pays pour aller menacer les pays voisins. Voilà comment l'histoire se racontait et on voit comment les schémas se sont installés et sont toujours fréquentés. C'est un petit peu comme les émissions qui sont toujours les mêmes, c'est le même moule, mais les modes changent, le langage change un peu, et les génériques changent, il y a un habillage musical qui change et qui est fait de l'air du temps, c'est les petits airs du temps. Samedi de France Culture, le 11 décembre 1971, appréciez l'audace de l'indicatif.
Dans la perspective du deuxième millénaire, l'an 2000, c'est peu de choses, car après tout, ce n'est qu'un chiffre, et cependant, c'est un seuil. Même si mathématiquement, ça n'est pas prouvé, il y a à l'intérieur de chacun la certitude intuitive que quelque chose est en train de se passer qui fait que nous ne pourrons pas vivre comme nous avons vécu jusqu'à maintenant. Mais bien sûr, l'homme est un animal qui s'adapte. Et nous travaillons dans l'idée, dans la prospective, que cela se passe bien.
Le triomphe du comique pédant. Alors, donc, on est là en décembre 1971. Et là, il va se passer vraiment une révolution copernicienne. Au lieu d'aller toujours vers les scientifiques, les universitaires, Radio Sorbonne, ceux qui ont la parole et ceux qui la portent, on va oser tendre des micros à des petites gens, à des gens ordinaires. Et ça, c'est une révolution extraordinaire. Et les gens ordinaires disent des choses qui ne le sont point.
Je vois le monde dans 30 ans où il y aura de l'ignorance, c'est-à-dire qu'on ne connaîtra jamais son voisin. Quand on pense comme ça, que l'automatisme maintenant crée l'individualité dans chaque personne. C'est-à-dire que il a contact, les plus grands contacts qu'il a, c'est avec la publicité, avec la radio, la télévision. Et je pense qu'il y a de moins en moins des contacts humains. Je pense qu'on est mal barré, quoi.
Ce monde évolue tellement vite, on se demande vraiment où c'est que ça va tendre, tout ça. Parce que d'un autre côté, on dirait que l'homme cherche à vivre, cherche à s'épanouir. et d'un autre côté, il se bloque lui-même par ses inventions, par ses découvertes. Ou alors, on s'apercevra à temps que, justement, tout ce qu'on connaît, ça peut être canalisé dans un intérêt commun, justement, dans une recherche de contact. Ou alors, ça sera une sorte de fin du monde par la destruction de la sensibilité. L'homme finira par où il aura cru vivre.
Tribune de Paris.
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Né de la révolution du machinisme, le progrès technique modifie la condition ouvrière d'une manière telle qu'on peut prévoir que la vie d'un travailleur, d'ici quelques décades, n'aura plus rien de commun avec celle des hommes d'aujourd'hui. Comment travaillera-t-on en l'an 2000 ? C'est la question que nous posons ce soir, non pas à des romanciers d'anticipation, mais à des économistes, à des ingénieurs, à des savants.
Je demande simplement si on ne pourrait pas tout de suite et très rapidement orienter le débat sur, je dirais, un petit côté prédiction, un petit côté wellsien par certains aspects, d'autre côté une extrapolation de la situation actuelle ou des situations immédiatement précédentes à la nôtre, mais véritablement voir ce que sont les ouvriers dans 20 ans, dans 30 ans ou même dans 50 ans.
Bien, nous vous écoutons.
Même si s'il y a des ouvriers.
Oui, Georges Friedman.
Eh bien, on constate que quantité de tâches qui naguère étaient globales sont maintenant parcellaires. Il s'est produit un éclatement des métiers considérable. Il y a une multiplication des manœuvres dans des dizaines de milliers et des centaines de milliers d'usines du globe. Par conséquent, on peut prévoir que cette atomisation va continuer.
Mais la pulvérisation, question, pulvérisation.
Si vous voulez, pulvérisation des tâches globales, mais toutes les tâches ne peuvent pas être automatisées et sans doute ne le seront pas, la Barthe ne sera peut-être pas d'accord avec moi, parce qu'il n'est pas du tout dit que même dans 50 ans, le système nerveux de l'homme soit partout remplaçable par la cellule photoélectrique ou par ses succédanées. Par conséquent, il y aura encore, n'est-ce pas, quantité d'ouvriers astreints à ce genre de tâches. Et d'autre part, il faudra également construire ces magnifiques machines qui permettent précisément la production automatique. Et bien voilà, déjà une ligne de force et j'aimerais savoir ce que mes aimables contradicteurs en pensent.
Noël Poudron.
Le travail, le chômage, la production, le rapport entre le capital et le travail, l'intérêt que le capital peut avoir à conserver un certain volant de chômage, comme on disait, le chômage évidemment est la grande préoccupation. Voilà comment on en parlait en 1967.
Une des questions qui semble préoccuper d'ailleurs le plus les Français, c'est la question de l'emploi. Vous avez posé la question suivante, est-ce que le problème du chômage sera résolu dans les années à venir ? Et les Français ont répondu non à 72%. Monsieur Fourastier, des réflexions sur ce pourcentage élevé quand même.
Et bien sûr, seulement ces inquiétudes-là me paraissent tout à fait légitimes, n'est-ce pas ? Malheureusement, nous ne sommes pas du tout en mesure d'affirmer que le problème du chômage sera réellement résolu d'ici l'an 2000. Certainement, on peut faire beaucoup mieux qu'aujourd'hui, mais ça n'est pas sûr que l'on puisse faire la perfection, c'est-à-dire annuler complètement le chômage. La machine économique est d'une complexité dramatique, si je puis dire, et on ne peut pas garantir que d'ici 30 ans, on aura parfaitement régularisé l'emploi et écarté le chômage.
1975.
Il me semble que la civilisation vers laquelle nous allons, c'est fondamentalement la civilisation du temps libre. La notion de temps libre, c'est ce qui n'est pas occupé très rigoureusement à la vie professionnelle, c'est-à-dire à l'acquisition de moyens de paiement et d'échange indispensables dans une société capitaliste. Je crois qu'il faut bien se dire que la ville de demain sera une ville habitée par des personnes qui auront 17-18 heures de liberté par jour et qu'il faut réfléchir à l'art et la manière d'organiser, en tout cas mettre à leur disposition les moyens de se réaliser, de s'épanouir, de vivre ces 17 ou ces 18 heures de temps libre.
1984.
L'usine de demain sera un prolongement des ateliers flexibles. Lorsque les robots auront véritablement la vue et le toucher, ils pourront choisir leurs pièces et les placer correctement devant les postes d'usinage et même de montage. Ce ne sera pas l'usine sans ouvriers, mais des tâches pénibles ou sans intérêt auront complètement disparu. On demandera aux hommes de travailler avec leur tête plus qu'avec leurs mains. La menace sur l'emploi est certaine, du moins pour les OS et les manœuvres. Heureusement, c'est une révolution lente qui se fera en 10 ou 20 ans. Les gens ne seront pas licenciés, mais ils ne seront pas remplacés à leur départ à la retraite. Quand on sait que la majorité des tâches menacées par les robots sont exécutées par des travailleurs immigrés, sans qualification, on voit l'ampleur de la mutation qui est engagée.
Braves gens de l'an 2000, je ne vous souhaite pas cette guerre civile terrible qui un jour nous arrivera.
En l'an 2000, en 2000, en 2000.
Comment on a vu l'an 2000 à la radio depuis 50 ans, la radio en l'occurrence la nôtre. On a parlé du travail, maintenant on va voir comment on a pensé le transport, le déplacement. Ça a été un grand thème, toujours un grand thème de la science-fiction, des projections sur l'avenir. Le 20e siècle sera avant tout le siècle de l'automobile. C'est une énorme mutation que celle que l'automobile a apportée. Mais en pensant à tout ce qui s'est dit et tout ce qui continuera de se dire, bien sûr, il faudrait avoir toujours présent à l'esprit le jour de fête de Jacques Tati. Vous savez, ce moment où le facteur qui fait sa petite tournée est pris par le rêve américain, par le rêve de la vitesse, de la rapidité, aller le plus vite possible nulle part.
Peut-être qu'en 2000, on commencera à développer des transports en commun par des véhicules du style navette spatiale qui pourront faire des liaisons genre Paris-New York en un quart d'heure. C'est d'ailleurs un peu ce que nous disait Patrick Baudry. Je vous laisse l'écouter.
Eh bien, je pense que d'ici l'an 2000, on verra d'autres transports supersoniques ou hypersoniques voir le jour. C'est-à-dire qu'on parlera hélas plus de Concorde. On en parlera encore, mais on ne l'utilisera plus. Mais par contre, j'espère qu'il y aura d'autres engins aussi fantastiques que Concorde pour le transport des passagers, parce que c'est bien de passagers qu'il s'agit. Également, mais alors pour après l'an 2000, je crois qu'il y aura des transports qui sortiront de l'atmosphère pour qu'on puisse avoir des vitesses quand même intéressantes, parce que finalement Mach 2, Mach 3, tout ça c'est quand même assez lent. En sortant de l'atmosphère, on pourra quand même avoir enfin des vitesses moins ridicules et aller aux États-Unis en quelques minutes. Parce que c'est absolument anormal que pour l'instant, on puisse aller de Châtelet à l'Étoile en 10 minutes et avec qu'on soit obligé de mettre quelques heures pour les États-Unis.
Patrick Baudry, donc, qui sera quand même le premier Français dans tout juste deux mois, en février 85, à partir dans la navette américaine. Voilà donc comment nous serons transportés dans 15 ans. Heureusement, il restera toujours les transports amoureux, plus archaïques que jamais, du moins je l'espère. Et si nous nous sommes trompés, eh bien surtout n'hésitez pas à nous rappeler à France Inter le 25 décembre 1999, si nous sommes toujours là. N'oubliez pas, 15 ans, c'est vite passé.
C'était l'an 2000 tel qu'on l'imaginait, une nouvelle diffusion d'un reportage de Guy Vanctil d'octobre 1999. Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur le site de France Inter, www.franceinter.fr, à la rubrique émission Là-bas c'est J'y suis, sur le site latireba.org ainsi que sur la page Facebook de l'émission à la technique aujourd'hui. Ludovic Asselot et Arnaud Caillé, cette émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Franck Adhérer, préparée avec Jonathan Duong, et c'est Stéphanie Fromentin qui attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Rendez-vous lundi prochain dès 15h pour une nouvelle semaine de Là-bas si j'y suis. Tout de suite, on retrouve Hervé Pochon avec un temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour à tous et bienvenue place de la Bastille où la troisième Roma Pride, voilà, il y a la Gay Pride et la Roma Pride, la marche des Roms. Ils sont 250 à s'être rassemblés autour des différentes associations qui les représentent.
Dans les clichés,
Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous arrêtez de parler ?
Hein ? Parce que vous êtes là.
Comment vous n'avez pas dit bonjour ?
Qu'on n'a aucune preuve que vous êtes journaliste. Qu'on vit dans des périodes de grande, grande confusion.
Vous avez raison.
Vous êtes un envoyé spécial de Valls, non ?
Oui, bah oui, j'ai une tête de policier quand même, ça se voit.
Non, justement, c'est pour ça qu'on se méfie. Parce que nous, on fait confiance à la police de notre pays.
Ah.
Et donc, on sait que vous voulez quelque chose ?
Oui, je vais savoir ce que vous faites là, à la troisième Roma Pride.
Nous sommes présents parce que nous avons été profondément traumatisés par les propos du ministre de l'Intérieur qui a tenu à l'égard de la communauté rome des propos qui sont des propos qui le situent en dehors de l'arc républicain. Décréter du haut de son ministère qu'une population entière n'a pas vocation à rester en France, alors même qu'on sait que cette population connaît des problèmes énormes, et alors qu'on sait qu'il existe en France des forces obscures qui visent à exacerber le sentiment de haine face à des populations minoritaires, nous semble extrêmement irresponsable. Il était bien que des citoyens, des organisations se mobilisent pour dire qu'il y a d'autres voies que celle de Manuel Valls en France.
Mais vous êtes simple citoyen ?
Ah, comme vous, je suis un simple citoyen. Il se trouve que je suis président de la Ligue des droits de l'homme, qui est une association de simples citoyens. Je rappelle que le ministre de l'Intérieur est lui aussi un simple citoyen.
Et vous, monsieur ?
Moi, je suis pareil, un simple citoyen. Bon, par ailleurs, oui, je vais le dire, je suis vice-président des SOS Racisme. D'abord, bravo Valls, parce que toutes les organisations antiracistes sont là, coalisées, grâce à ces excès. Et, ben, je suis là pour dire que nous sommes tous des Roms et que les Roms ont vocation à vivre sur l'étendue du territoire européen, parce qu'ils sont simplement européens.
Mais vous n'êtes pas surpris justement par le peu de monde qui soit... 250 personnes, c'est pas énorme.
250 personnes engagées, c'est important. Et il faut dire aussi que l'objectif, c'était pas non plus de faire un rassemblement...
Bah, l'objectif, c'est plus on est de fous, plus on rit, non ?
Si j'osais, je dirais que ça ferait 249 personnes de plus que Manuel Valls à lui tout seul. Mais malheureusement, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner, et c'est ça qui est grave. Nous sommes place de la Bastille. Je crois qu'il y a très très longtemps, il n'y a pas beaucoup plus de personnes qui s'étaient donné rendez-vous pour mettre à bas une citadelle. Elles l'ont fait tomber, et on sait qu'il y a eu très très belle suite pour la République. Et ne mettez pas votre micro sous le nez des gens sans les prévenir. C'est pas éthique.
Mais c'est ma seule manière d'arriver à avoir des choses un peu spontanées. Alors c'est vrai que parfois je me fais jeter en disant « vous pourriez vous présenter ».
Mais ça, je le métier de journaliste ne consiste pas à obtenir des choses spontanées, mais des choses qui ont du sens.
Ah non, mais ça, il y en a qui font ça, qui font les choses sur le sens. Moi, ça m'intéresse moins. Moi, ce que je veux, c'est de la vie.
Ouais, je suis pas sûr qu'on ait les mêmes valeurs professionnelles, mais bon.
Si on me demande de me présenter, je me présente avec plaisir. Qui je suis n'est pas très important. Il y a un micro, c'est marqué France Inter dessus, donc je le mets et puis voilà, les gens, après, je ne fais pas un truc avec un micro caché, vous voyez, par exemple.
Oui, c'est vrai.
Je sais pas votre nom.
Pierre Tartakovsky.
Ibrahim Sorel.
Et vous, monsieur, je ne vous ai pas fait parler, hein, je ne veux pas vous...
Ils vous ont tout dit, déjà.
Non, c'est vrai, mais vous êtes là pour quoi, vous ?
En voisin, j'habite là.
Ah, d'accord.
Voilà.
Bon, donc vous n'avez rien à ajouter ?
Non, accessoirement, c'est Edgar Dana, c'est le mec qui a inventé les cultures du cœur en France. Et c'est une grosse orga qui permet à des jeunes qui n'ont pas accès à la culture de pouvoir aller au théâtre, à l'opéra, ainsi de suite. Il est modeste, mais c'est un grand bonhomme.
Il s'agit des exclus. Hein.
Moi, je suis M. Domas, je suis président de l'Union française d'association Zigane. Je représente les Roms français, je représente les Manouches, les Sinti, les Yéniches, comme on se dénomme ici en France. Et j'ai particulier, si vous voulez, que même les Roms migrants, ou même un citoyen français sédentaire, je n'ai pas pour habitude, et nous n'avons pas pour habitude de le laisser sur le bord de la route.
On s'était vu en 2010. Qu'est-ce qui a changé en 3 ans pour vous ?
En 3 ans, j'avais la promesse du futur président qui était candidat aux élections présidentielles, qui s'était engagé à la première Roma Pride justement à venir, s'il se portait candidat et qui était élu, l'abolition des livrets de circulation, la reconnaissance de la caravane comme matière d'habitation principale. voilà. Mais pratiquement rien n'a changé. On est toujours, on est écouté, c'est vrai. On est écouté, mais on n'est pas suivi quelque part. C'est regrettable.
Votre revendication numéro 1, la première, c'est laquelle ?
La première déjà de mes solutions à moi, ce serait l'abolition du livret de circulation, retomber comme un citoyen normal en faisant tomber cette loi de 69 aussi, et surtout sur l'habitat aussi, cette reconnaissance aussi de l'habitat.
Alors vous êtes un tzigane sédentaire, vous êtes installé où vous ?
Je suis sédentaire, on va dire, je ne connais pas de tzigane sédentaire, parce que, vous savez, dans l'âme de n'importe quel voyageur en particulier, il y a toujours l'âme du voyage. On est attaché à rien. Si un jour ça nous prend, on laisse tout, on abandonne tout et on s'en va sur le voyage.
Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous lundi.
Un temps de pochon a été réalisé par Véronique Barnet.
Après la série culte Heimat, France Inter présente le nouveau film d'Edgar Reitz, Heimat, chronique d'un rêve, l'Exode. 1842, la famille du forgeron Simon vit pauvrement dans le village de Chabar. Jacob, le fils cadet, lit tous les livres qu'il trouve. Il rêve d'aventure et de liberté. Il voudrait émigrer au Brésil, comme des milliers d'Allemands à cette époque, en quête d'un monde meilleur. Parviendra-t-il à s'arracher au sien ? Heimat, une fresque captivante, au cinéma le 23 octobre. Retrouvez Edgar Reitz le 20 octobre à 14h05 dans Cosmopolitaine.
Pour qui, pourquoi êtes-vous prêt à donner votre vie aujourd'hui ? À l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, Radio France vous invite à participer à sa grande enquête. Quelles sont les valeurs qui vous sont chères ? Quelles sont les causes autour desquelles nous pouvons nous rassembler pour demain ? Pour répondre, pour témoigner, rendez-vous sur espacepublic.radiofrance.fr.
À suivre, Frédéric Lodéon, excellente journée à l'écoute de France Inter, il est 16h. Le retour des informations, Laetitia Gaillet.
Ça n'était pas dit clairement jusqu'ici, c'est fait. La direction de Lagardère confirme que les magazines qui ne pourront pas être vendus seront fermés. Elle le dit dans une lettre adressée aux salariés du groupe. Ce matin, le pôle média de Lagardère a présenté donc son plan de réorganisation. 10 magazines vont être vendus, parmi eux Bi, Psychologie et Première. 350 personnes sont concernées par cette réorganisation. Le débat sur le budget 2014 se poursuit à l'Assemblée cet après-midi. Après la baisse du plafond du quotient familial, les députés ont rétabli l'avantage fiscal sur les frais de scolarité. Une personne interpellée pour avoir jeté des projectiles. Bilan des manifestations de lycéens aujourd'hui à Paris. Plusieurs milliers d'entre eux se sont retrouvés dans les rues de la capitale pour protester contre les expulsions d'élèves étrangers. Si globalement le rassemblement s'est dispersé dans le calme, les policiers ont quand même dû user de bombes lacrymogènes contre certains manifestants dits agités. Ce mouvement de protestation fait suite à l'affaire Leonarda. L'adolescente Rome Kosovar a été interpellée la semaine dernière alors qu'elle participait à une sortie scolaire dans le Doubs. Avec sa famille, elle a été expulsée vers le Kosovo. C'est surtout l'interpellation qui a provoqué un vent de colère à gauche, à droite peu de réaction. L'ancien Premier ministre François Fillon appelle tout de même aujourd'hui Bruxelles à proposer une politique globale sur la question des Roms. François Fillon, donc, qui a fait cette déclaration de Bruxelles, où il se trouve actuellement, il ne participe pas donc à la convention de l'UMP sur le quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui a lieu lui en ce moment à Paris. Peu de ténors d'ailleurs du parti y sont présents. Dans un discours, Jean-François Copé, le président de l'UMP, a accusé cet après-midi François Hollande de favoriser par sa politique la montée du Front National. Hervé Morin veut en finir avec l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Dans une tribune publiée sur le site du Huffington Post, le président du nouveau centre la qualifie d'échec patent. « Je sais, dit Hervé Morin, que ce n'est pas politiquement correct de dire cela, mais cette élection au suffrage universel direct est un facteur puissant de concentration des pouvoirs et donc de régression démocratique. Elle a rendu dingo le monde politique français. L'élection présidentielle n'est plus une élection, c'est une obsession et ça a été amplifié par l'instauration du quinquennat et par la pratique des primaires. Ça a conduit, dit-il, les parti politique à n'être plus qu'une addition d'écuries présidentielles. Deux agents de la garde nationale tunisienne, équivalent de la gendarmerie, ont été tués aujourd'hui en Tunisie. Donc, selon le ministère de l'Intérieur, ça s'est passé lors d'affrontements avec un groupe armé terroriste. Les premières rencontres n'avaient rien donné, mais cette fois, CDU et SPD sont prêts. La chancelière allemande vainqueur des dernières législatives outre-Rhin et ses adversaires du SPD sont tombés d'accord pour entamer des négociations pour former un gouvernement de coalition nationale. Environ 200 personnes ont participé cet après-midi à une marche blanche à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Marche blanche à la mémoire du jeune homme de 17 ans qui s'est tué dimanche en voulant échapper à un contrôle de police. Il roulait à bord d'un scooter volé et c'est en voulant échapper donc aux policiers qu'il a percuté un 4x4. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
La vida empieza otra vez.
France Inter, partenaire de la Fiesta des Suds du 18 au 26 octobre au Dock des Suds à Marseille. Une 22e édition exceptionnelle pour montrer que les musiques sont capitales. 4 soirées, une fiesta des minots, des expos, 45 concerts. IAM, Africa Express avec Rachid Taha, M, Damon Albarn, Tony Allen et Bonnie Bones, Kassav, Avishai Cohen, Fefe, Ben L'Oncle Soul and Monophonics, Chinese Man Records. Renseignements sur franceinter.fr.
France Inter,
la voix est libre.
Bonjour Frédéric Lodéon.
Et bonjour Laetitia Gaillet, on vous retrouve à 17h.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour et merci d'être avec nous. Revenir sur des œuvres qu'on a étudiées quand on était gamin, c'est très passionnant parce qu'on a changé, évidemment. L'œuvre, non, elle reste là. Même si on peut trouver des éditions différentes avec le temps, mais en tout cas, c'est une sorte d'étude de soi-même et puis aussi d'un auteur qu'on aime. On l'approfondit. C'est ce qu'a fait Jean-Philippe Collard avec Frédéric Chopin. Donc, les préludes. Voici le troisième. C'est noté Vivace. Belle envolée et doux atterrissage, troisième prélude de Frédéric Chopin par Jean-Philippe Collard. Jean-Philippe Collard qui en ce moment donne des récitals, salle Colonne à Paris, c'est 94 boulevard Auguste Blanqui dans le 13e métro glaciaire au bus numéro 21. Et demain, si vous appelez un numéro que je vais donner, pas celui de France Inter, attention, peut-être vous pourrez gagner une des 100 places pour le concert de vendredi, donc demain à 20h, salle Colonne, où réside l'orchestre Colonne, qui est très très fameux, bien sûr, à juste titre. Voici le numéro 01 45 43 77 58 01 45 43 77 58. Si vous êtes dans la région parisienne, un très beau moment à passer avec Jean-Philippe Collard, en toute intimité, il faut bien le dire, c'est très amical. Il y aura du Chopin, mais aussi d'autres œuvres, et puis un récital surprise, un programme qu'il va annoncer, comme chaque soir, à son public. Ben voilà, à vos téléphones, si vous voulez bien. En attendant, voici deux préludes enchaînés, le 9e et le 10e.
Thank you.
9e et 10e prélude de Frédéric Chopin, c'est un enregistrement, la Dolce Volta, qui est paru récemment. Et Jean-Philippe Collard a collé à ces moments d'intimité, ces préludes qui sont comme des confidences, la deuxième sonate du même compositeur. Et il dit, associer la deuxième sonate est symptomatique de ma relation avec Chopin. Le premier et le quatrième mouvement ont longtemps figuré au programme du concours Marguerite Long, qu'il a gagné, je le signale. Et c'est moi qui le dis donc. Et son thème n'est pas très optimiste, mais c'est une page extrêmement passionnée, loin d'être désespérante. Je suis touché non seulement par sa couleur sombre, mais surtout par la lumière qui s'en dégage. Premier mouvement grave et puis double mouvement, doppio movimento. On joue deux fois plus vite, simplement.